19h-20h, Europe 1 Soir.
On parle énormément de la violence entre jeunes ces derniers jours. Samara, tabassée à Montpellier, Chemseddine, tuée à Viry-Châtillon, Philippe, mort sous les coups à Grande-Synthe. Gabriel Attal était donc à Nice aujourd'hui pour mettre un coup de projecteur sur l'internat éducatif ouvert aux jeunes décrocheurs. C'était dans un lycée de la ville. Bonsoir Lisa Carman-Hirsig.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes professeur des écoles, auteur de La Grande Garderie chez Albin Michel. Alors parlons de l'expérience qui est menée à Nice. Une vingtaine de jeunes à la dérive qui passent 2 semaines à faire toutes sortes d'activités. Réveil à 7h, lever du drapeau, activités comme des ateliers estime de soi ou bien sortie dans le camp de déportation des 1000 à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérimentation ?
Alors, sur le principe, isoler des enfants violents ou des jeunes adolescents violents de leur milieu habituel n'est pas une mauvaise idée. On sait que c'est important de les couper des mauvaises influences. Sur le principe, j'ai pas de problème. Mais pourquoi faire ? C'est ça la question. Parce qu'en fait, ces jeunes gens n'ont sans doute pas besoin d'une couche supérieure, une couche, on va dire, de plus, de catéchisme républicain. Or, c'est bien ça qu'on s'apprête à faire. Moi, j'ai bien écouté ce que disait le responsable de l'association qui organise, je crois, une partie du programme. Donc, c'est une association qui s'appelle PAGE. Mmh. Donc, ce monsieur disait que, voilà, ils allaient organiser beaucoup de séances de sport. On va faire de la culture. On va leur donner des séances d'éducation civique. Moi, je pense que ces jeunes, le point commun de ces jeunes gens, quand je les écoute parler, c'est l'indigence de leur vocabulaire, leur incapacité à s'exprimer, à mettre des mots sur leur frustration, à mettre des mots sur leur haine, sur leur violence, sur tout ce qu'ils ressentent.
Mais c'est terrible ce que vous dites, parce que vous avez l'air de dire qu'ils sont irrécupérables, en fait.
Pas du tout. Alors, ce que je dis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'il faut leur donner, c'est pas une énième leçon d'éducation civique, c'est la langue, leur langue, la langue française et l'histoire de leur pays. C'est les instruire, c'est leur donner aussi, pourquoi pas, un métier. Une raison d'être, de se sentir digne et fier. Je pense qu'on se fourvoie quand on leur propose une nouvelle fois de les évangéliser avec les valeurs républicaines. Ils en ont rien à faire des valeurs républicaines, visiblement. Et c'est pas à 13, 15 ou 16 ans que tout à coup ils vont se dire j'adore la France ou c'est à mon avis c'est pas ça qu'il faut faire et je ne pense pas qu'il soit irrécupérable. Je pense que c'est une question d'instruction et je pense que ce qu'il faut donner à l'école c'est l'instruction, c'est pas un catéchisme, c'est pas des valeurs républicaines qu'on serine. Vit la République et ça se vit par la littérature, ça se vit par l'histoire, par la géographie de son pays.
On peut être que d'accord avec ce que vous dites évidemment. Là on parle pour l'instant d'expérience, c'est 15 jours, c'est des vacances, c'est comme un stage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être en les isolant d'un milieu nocif, de très mauvaise fréquentation, de peut-être pas de tous les ramener dans le droit chemin, mais en tout cas de leur montrer qu'il y a une vie ailleurs. Il y a aussi le fait qu'on leur enlève leur portable, sauf une heure par jour. Peut-être que ça peut déclencher une étincelle, vous n'y croyez pas ?
Moi, je serais ravie que ça fonctionne. Je me dis juste que si Monsieur Attal communique avant, c'est que lui-même n'y croit pas trop. Parce que si j'avais été à sa place, si j'avais été vraiment confiante dans mon dispositif, je n'aurais rien dit avant et j'aurais communiqué après sur la réussite de ce dispositif. C'est quelqu'un qui fait ça très souvent. Il est resté très peu de temps à l'Éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale. Il a beaucoup communiqué. Si vous regardez ce qui a été vraiment réalisé après ce passage éclair au ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas grand-chose. C'est une habitude de communiquer comme ça rapidement. Et d'ailleurs, il dit lui-même je passe à l'acte dès que j'ai parlé. Mais en réalité, quels sont les actes là ? Il a recruté 20 élèves. Alors, on dit que c'est sur la base du volontariat. Si vous écoutez les gamins concernés, visiblement, ils sont pas tous volontaires.
C'est plutôt le volontariat vidéos, ils ont pas... de leurs parents, on dirait.
C'est les volontariats des parents. Et je comprends les parents, parce que les parents se voient offrir une espèce de colonie de vacances aux frais du contribuable dans un très bel endroit, si j'ai bien compris, ça a l'air très joli. On leur enlève leurs enfants j'imagine qu'il y a un enfant par famille, on leur enlève leur enfant pendant une quinzaine de jours, donc c'est des enfants qui sont difficiles à tenir à la maison, donc on les prend on les isole, tout ça aux frais du contribuable, évidemment, et tout ça pour leur offrir, encore une fois, quelque chose qui, à mon avis, n'aura pas d'effet sur leur comportement. Je serais ravie d'avoir tort, honnêtement. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Allons interroger ces élèves dans 15 jours, on va dire hors du champ ministériel, quand le ministre n'est pas juste à côté. Quand ils sont pas cernés par des adultes qui les ont coachés pendant 15 jours. Et voyons ce qu'ils disent vraiment, et voyons comment ils se comportent vraiment. Alors, j'ai peu d'espoir.
Lisa Kamenetsi.
Je pense qu'en fait, on peut pas s'économiser aujourd'hui une vraie refonte des programmes scolaires et un vrai examen de la formation des enseignants.
Alors, on va voir justement, on va voir ce que dit un de vos collègues, puisque Laurent, qui nous appelle du Lot-et-Garonne, est prof de maths, et on aimerait aussi avoir son opinion. Vous, en tout cas, on vous a senti très sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire. Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Merci. En fait, merci de nous appeler.
Je suis plus en Lot-et-Garonne, je suis en vacances en Corse, mais en fait, c'est pas grave.
Bon, c'est pas grave. On entend votre petit accent du Lot-et-Garonne, en tout cas.
Ah, ça vous fait plaisir.
Mais j'adore. J'ai travaillé dans le Lot-et-Garonne, vous voyez. dites-moi, vous, quand vous entendez cette histoire d'internat, vous n'y croyez pas non plus, alors, j'ai bien compris.
Moi, je crois qu'il faudrait que le Premier ministre, ex-ministre de l'Éducation, s'occupe surtout des élèves qui sont exclus des établissements lorsqu'ils sont passés devant un conseil de discipline. Ça, c'est le vrai problème, parce qu'on se refile des patates chaudes d'un établissement à l'autre et on ne traite pas les problèmes. Donc, il faudrait peut-être créer des maisons de correction pour ces jeunes-là, ou des établissements avec discipline renforcée pour traiter ces problèmes. Et de plus en plus, on évite de faire des conseils de discipline parce que, justement, il y a ce problème de se refiler, entre guillemets, les élèves à problème d'un établissement à l'autre.
Et vous ne pensez pas... Je comprends votre histoire de patates chaudes, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais là, l'idée de les mettre, de les isoler dans des sortes de stages en internat... Ah oui, alors le problème, c'est qu'après, il faut bien qu'ils reviennent à un moment ou à un autre.
Voilà, donc en fait, c'est des vacances, comme disait ma collègue, c'est des vacances tout frais payées, quoi. Voilà. C'est pour faire croire qu'on s'occupe du problème et on ne traite pas la racine. La vraie chose serait, en fait, de revoir complètement le système, notamment le collège unique, de prévoir des filières qui motivent ces élèves-là, pas forcément des filières traditionnelles, avec des stages, créer un collège des métiers, par exemple, qui pourrait davantage motiver ces élèves, qui éviterait qu'ils posent des problèmes de discipline. Parce qu'en fait, ces élèves-là n'ont plus rien à faire dans le système et on sait pas trop quoi en faire.
C'est assez terrible de vous entendre aussi bien vous. Merci de votre appel. J'entends bien.
J'ai 59 ans, je commence à avoir pratiqué le système éducatif, l'éducation nationale en particulier.
J'entends ce que vous dites. Lisa Kamenetsi, quand vous entendez ce que dit Laurent, qui dit qu'il a fait le tour largement de ce métier et qu'il est si pessimiste comme vous l'êtes aussi, on se dit, mais elle est où la solution ?
Pour moi, la solution est dans un réalisme quand même. Il faut, et monsieur a raison, c'est du bon sens ce qu'il dit. On peut pas se refiler, comme il dit, les patates chaudes d'une école à l'autre. Il faut leur trouver une autre solution, soit effectivement un centre éducatif fermé, soit pour ceux qui sont encore, on va dire, sauvables, leur offrir une voie professionnelle qui leur rende leur dignité, qui leur donne une opportunité professionnelle. Après, moi, je pense que vous voyez, il y a 54% des Français qui scolariseraient volontiers leurs enfants dans l'école privée. Pourquoi ? Parce qu'une école privée peut exclure des élèves. Mais vraiment, c'est-à-dire que les écoles privées ne se refilent pas les élèves les unes les autres. Et donc, il faut donner cette possibilité aux écoles publiques. Il faut que les écoles publiques aient la même liberté que les écoles privées. Sans ça, les gens vont se ruer dans le privé. Et comme le privé sous contrat est plafonné à 20% du public, les gens finissent par se ruer vers le privé hors contrat. Vous voyez aujourd'hui un grand nombre de gens qui se saignent aux quatre veines, y compris dans des familles modestes, pour scolariser leurs enfants dans des écoles privées. Parce que dans les écoles privées, on peut faire respecter le règlement. Dans les écoles privées, on peut virer un élève qui se comporte mal.
Et qu'est-ce qu'on en fait de ces élèves, alors? C'est ça le problème.
Mais moi, je pense qu'il faut trier. C'est-à-dire que parmi ces enfants-là, ils sont pas tous les mêmes. Il n'y a pas 100% de ces gamins qui sont irrécupérables. Maintenant, il y a sans doute parmi eux des élèves dont on peut pas faire grand-chose d'autre que effectivement de les interner un moment dans un centre spécifique dans lequel on va les redresser, ce qu'on appelait les maisons de redressement autrefois. Ça existait déjà. La violence des jeunes n'est pas un phénomène complètement nouveau. Des maisons de redressement, il y en a toujours eu. Des gamins gamins qui se font harceler, il y en a plein la littérature. C'est là où le phénomène est nouveau, c'est la, comment dire, la masse, la quantité de cas qui en plus sont très médiatisés, donc ça fait peur à tout le monde. Mais moi, je pense qu'on ne pourra pas s'économiser, encore une fois, la réflexion sur la comment dire, le contenu des programmes. Qu'est-ce qu'on offre aux élèves, mais dès la maternelle, hein, parce que le fait de remplacer les savoirs par la pédagogie, ça c'est ce qu'on fait depuis 50 ans. Le fait de remplacer les savoirs par des idéologies de toutes sortes, si vous lisez les programmes de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est de l'écologie à toutes les sauces, de la lutte contre les inégalités. On demande aux élèves de s'engager pour le climat, contre les stéréotypes. On leur fait faire des quêtes pour les coupes menstruelles. Enfin, je vous passe les détails, hein, j'ai tout vu. Et à côté de ça, ils arrivent en sixième, un quart des élèves de sixième ne savent pas lire couramment. Et on se félicite que aux journées de la citoyenneté, ou de la défense, pardon, aux journées de la défense, on se félicite que 78% des enfants, enfin des jeunes gens, puisqu'ils ont 18 ou 19 ans, comprennent un article de journal. Mais si je compte bien, s'il y a 78% des gens qui comprennent un article de journal, ça veut dire qu'il y en a 22% qui ne comprennent pas un article de journal. C'est énorme. Ça veut dire qu'un Français sur 5 qui sort du lycée ne comprend pas ce qu'il lit dans le journal. C'est fou. Donc il faut revoir les programmes, il faut recommencer à instruire les enfants de ce pays.
C'est vaste, vaste programme, hein, revoir les programmes et instruire les enfants de ce pays. Quel peut être le rôle des parents? Est-ce que finalement, il faut pas les responsabiliser encore davantage?
Sure. Mais on a enlevé aux parents le choix de l'école. On a enlevé aux parents le choix de scolariser leurs enfants là où ils le souhaitent en mettant en place une carte scolaire et en organisant le monopole financier de l'éducation nationale. Si vous voulez mettre vos enfants dans une école privée, il faut double payer. Vous payez vos impôts, puis vous payez l'école privée. Donc en gros, on a organisé le monopole de l'éducation nationale sur la scolarité des enfants. On a retiré aux parents le choix de la scolarité de leurs enfants, alors que normalement, c'est aux parents, ce sont les parents les premiers éducateurs de leurs enfants. Une fois qu'on leur a retiré ce choix, comment leur reprocher d'être déresponsabilisés? L'État a organisé la mainmise sur l'éducation et ensuite reproche aux parents de ne pas éduquer leurs enfants. Je pense qu'il y a une espèce de contradiction là-dedans quand même qui est assez flagrante. Donc je pense qu'il faut rendre aux parents la liberté de scolariser leurs enfants là où ils le souhaitent, et en leur rendant la liberté, on leur rend la responsabilité entière, et après c'est à eux de choisir ce qu'ils font de leurs enfants, est-ce qu'ils les mettent dans telle ou telle école, pourquoi, est-ce qu'ils l'enlèvent de telle ou telle école, et pour quelle raison. Et je pense qu'on peut pas, d'un côté, scolariser les enfants obligatoirement de 3 à 18 ans, maintenant, l'obligation de formation de l'État court jusqu'à 18 ans. On peut pas en même temps monopoliser l'éducation nationale avec un ministère qui capte l'ensemble des impôts dédiés à ça. Et de l'autre côté, demander aux parents de se montrer responsables. Il faut leur laisser la liberté et donc la responsabilité qui va avec.
Merci beaucoup, Lisa Kamen-Hirsig, d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci à notre auditeur Laurent. Je rappelle que vous êtes professeur des écoles et auteur de La Grande Garderie chez Albin Michel.
Europe 1 soir.
19h46.
Hélène Zélani.
Oui, c'est bien moi. Et j'ai un rendez-vous à vous rappeler tous les jours de 14h à 15h sur Europe 1. Au-delà de racontes, faits divers, affaires criminelles, portraits de personnalités. Demain, c'est une émission spéciale. Christophe va vous raconter des histoires de légistes tirées du livre du docteur Philippe Boxo, médecin légiste en Belgique. Mort à la ferme, le pendu pas pendu. C'est donc demain dans Au-delà de racontes à 14h sur Europe 1. Nous, dans un instant, on va parler de la démission du chef du renseignement militaire en Israël. Pour n'avoir pas pu prévenir l'attaque du 7 octobre, vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21.